Voilà, je me trouve ce matin en fait à Menton, ce matin lundi 9 à Menton, pour préparer avec Philippe Ramy l'émission de ce soir. Et je le remercie de m'accueillir dans son appartement qui domine la mer et le Cap Martin à Menton. Il fait très beau, on voit assez loin l'horizon. Je remercie aussi Tania, sa femme, de m'accueillir pour préparer l'émission. Voilà, alors j'ai rencontré Philippe Ramy il y a quelques années à travers un site internet qui est le site de Remunet, qui était à l'origine créé par un certain nombre d'amis autour de François Bon. J'ai rencontré donc Philippe Ramy à l'occasion de la lecture d'une de ses chroniques, toutes ces chroniques de Philippe Ramy. Il y en a maintenant 22 ou 23, quelque chose comme ça. Et toutes ces chroniques ont comme titre général une fin des certitudes. Alors je vais demander à Philippe Ramy de me dire pourquoi ce titre général, et pour y amener à cette question et à cette réponse, je voudrais lire la dernière ou une des dernières chroniques de Ramy, enfin pas exactement la dernière, une des dernières chroniques qu'il a écrite à la suite d'un voyage à Munich. Et en particulier aussi de Munich, un voyage à Dachau. Et voici ce qu'il dit dans cette chronique, qui a comme titre « Sans approcher Dachau, ni jamais s'éloigner ». À Dachau, on ne peut aller comme on ne peut en venir. Et pourtant j'ai vu, mais qu'ai-je vu ? La longue place qui se ferme. Les arbres sans pourquoi, les gravillons roulés dans leur seul et même bruit de pierre, les miradors comme neufs, les mouroirs, les lits par grappes de 12, les lits vides, les latrines, les planches clouées sur tout, et partout les plafonds, les grilles, les caisses, partout les murs, le fer, les murs de plus en plus épais, nombreux, du centre inassignable vers l'extérieur fuyant, par-delà la ceinture du fossé en béton, et la route, les néons, les câbles et les pylônes, le murmure de la ville, l'obstacle infranchissable du paysage insouciant. Rien ne sera jamais pardonné, rien ne cesse. Des centaines de nazillons ont défilé à Munich la semaine dernière, des centaines au centre-ville, protégés, entourés par la police. Rien ne cesse. La ville monte, grandit, s'étale autour du camp. La ville témoigne du domaine illimité de l'impunité. Rien ne sera jamais pardonné. Comment est-il possible de redire, de répéter, ahuri en rage, en pleurs, ahuri par la rage et les pleurs, assommé de tristesse, comment est-il possible de parler, de prononcer ces mots ? Je suis allé à Dachau ce matin et j'en suis revenu. Je suis entré, sorti, j'ai croisé, recroisé le seuil avec la facilité du chien de la maison. Parler non pour dire qui le pourrait, mais pour ne pas se taire, pour battre ici le silence, infiniment. Je suis entré et sorti avec la facilité du chien de la maison. Qui oserait se prétendre innocent, pardonné ? Parmi les enfants des écoles qui visitent Dachau, parmi ces enfants que je rencontre sous les portails foudroyés, parmi ceux qui pleurent au fond des couloirs, se tient également celui qui apprend à reconstruire la machine d'abjection. C'est un enfant parmi les autres que je ne reconnais pas, mais dont je sais la présence, un enfant debout parmi les autres, silencieux, et qui avance les yeux ouverts et compte lentement les meurtres à accomplir. Alors cet enfant-là m'a fait songer aux enfants humiliés de Bernanos. Bon, alors Philippe Ramy, est-ce que vraiment ce texte « Sans approcher Dachau ni jamais s'éloigner » explique, justifie le titre « Une fin des certitudes » ou comment, du moins, s'inscrit-il dans ce thème général de la fin des certitudes ? Bonjour Jean-Marie Barnot, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Et je ne vais pas tenter une transition directement à partir de ce texte, car il se présente pour moi, et comme pour nous tous, comme l'expérience de l'irréconciliable. Mais vous posez la question du titre générique de mes chroniques sur Romunette, et à travers cette question, j'entends celle de la raison même du désir en littérature. En d'autres termes, pourquoi porter, pourquoi emmener par le désir, et par quel désir écrit-on ce que l'on écrit? Et pourquoi, fidèle à quel désir, écrit-on de la manière dont on écrit? Alors, pour le dire vite, je crois que le désir littéraire a deux causes, deux racines. D'abord, la filiation, c'est-à-dire que on désire à travers ce que d'autres ont désiré avant nous ou écrit. Et ensuite, l'impossible, qui sanctionne, à mon sens, un rapport au silence. Alors, je vais tenter de développer un peu ces deux racines qui, à mon sens, assoient le désir littéraire. La filiation, à travers qui résonne ce que l'on a envie de dire, à travers qui parle-t-on lorsque l'on parle. Mon titre de chronique réfère directement au travail et au livre d'Ilia Prigogine, le physicien, ce livre « La fin des certitudes », qui pose, du moins ce que j'en retiens, le principe de la flèche du temps. Et cette flèche du temps assied le monde dans une perspective qui doit admettre l'irrévocable. Le monde, les choses, les êtres, la vie ont un sens, un irréversible, et leur destruction, contrairement à ce que sous-tend par exemple le titre de du livre de Yankelevitch, L'irréversible à nostalgie,
oui.
Ce sens n'aboutit pas, le sens de cette destruction n'aboutit pas à la nostalgie, mais au contraire, à quelque chose qui dégage l'être humain vers la joie, vers l'ouverture.
Il y a là un paradoxe. Est-ce que vous pouvez dépasser, enfin, ou expliquer en tout cas ce paradoxe? Parce que si d'un côté il y a la destruction, comment la description comme inévitable de l'histoire, apparemment, et comment cette destruction peut-elle coïncider avec un mouvement vers la joie?
Il me semble que le repli presque inévitable qui vient du corps, c'est un repli dicté par la douleur, et c'est un repli de chagrin, un repli de peur, un repli de ressentiment. Et chacun d'entre nous, dans le fond, sait très bien, sent très bien, que vient un moment où il lui faut dépasser ce ressentiment. Et je crois que l'écriture permet la voie, d'ouvrir la voie, dans le sens de cette prise de conscience, du moins de cet affrontement, de ce face-à-face, avec l'horizon heureux, si je puis dire, de chaque douleur. L'horizon heureux de chaque douleur subie de façon irrévocable. Il ne s'agit pas d'aller chercher le mal, il s'agit de comprendre qu'il y a une possibilité dans le mal subi de façon irrévocable de lui échapper, de la transformer à travers le corps et à travers le langage.
Et si vous pouvez répondre assez rapidement, juste pour nous éclairer, quelles étaient ces certitudes qui sont finies alors maintenant?
Bien, je dirais que la première idée qui me vient est celle qui permet de raccrocher à la question littéraire. La certitude n'est pas celle du physicien, la certitude est celle qui a rapport à l'absolu littéraire et à l'impossible qui sanctionne la littérature lorsqu'elle affiche son rapport au silence. Et je crois qu'il y a
un écart irréductible entre l'exercice que nous faisons aujourd'hui et que nous faisons tous dans notre vie quotidienne, celui de l'échange, de l'intelligence, le versant de l'oralité, de la parole, et l'autre pan, qui est le pan de l'écriture. Et je crois que l'écrivain n'est fondamentalement pas une personne qui pense, mais que c'est un matériau.
Oui, un matériau dans lequel s'inscrit quelque chose, ou à travers qui s'inscrit quelque chose.
Un matériau, je dirais, à travers qui passe un phénomène, c'est un matériau de métamorphose.
Mmh. On va s'arrêter là pour une première pause musicale et pour écouter César Franck.
C'est cela.
Oui,
César Franck, les sept paroles du Christ en croix. Et il s'agira de la troisième parole, un fétiche pour moi.
Je vais maintenant, Philippe Ramy, vous tirer notre dialogue vers un aspect de votre travail qui concerne la philosophie. Vous êtes vous-même fait donc des études de philosophie, on reviendra sur le lieu où vous les avez faites un peu plus tard, et vos goûts vous oriente vers ce que je résumerai en disant qu'il s'agit des philosophes modernes de la déconstruction, pour employer un terme cher à Jacques Derrida, ces philosophes du nomadisme aussi, hein, pour reprendre le terme qu'on trouve souvent chez Deleuze, philosophe donc qui se lance sur les steppes à l'abri de la yourte pour la soirée et pour la nuit. Alors, il y a aussi une de vos lectures particulièrement nourrissante, celle d'Emmanuel Lévinas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose comme ça qui explique l'intérêt pour cette philosophie-là ou ces philosophies-là et pour cet attachement?
Ah, le nomadisme, ouais. Le nomadisme, pour essayer de le dire de façon la plus simple et la plus vivante possible, je crois que la liberté ne doit pas se conquérir au détriment de ce qui nous rend meilleurs. Alors c'est une phrase lancée un peu en pâture, mais je crois qu'elle est une borne nécessaire, un bornage qui nous garantit dans l'idéal de ses dérives et de ses folies. dont vous parliez avec la lecture de ma chronique, ouais. L'ouverture de cette émission. Donc, la liberté, c'est beau la liberté, mais il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, je crois bien que j'aime ces philosophes qui me parlent de la possibilité d'une liberté sans violence. C'est-à-dire d'une liberté qui ne se conquiert jamais au prix du massacre, mais qui nous dépossède de l'idée du quant à soi et qui nous garantirait de toutes les pratiques narcissiques.
À la fois donc contre la force, contre la violence,
contre la force.
Et contre la force dirigée vers soi que serait ce narcissisme qui, sous couvert de jouissance ou de plaisir, en réalité est une violence, quoi.
Absolument, si elle n'est pas transcendée dans le cadre du possible.
Ouais.
Et je crois que ces philosophes de l'ouverture, on les appelle de la déconstruction, mais pourquoi ne pas les appeler de l'ouverture, de l'ouvert, du nomadisme, me parlent, m'amènent une générosité extraordinaire en affirmant le refus de toute forme de prédation, en préservant dans leurs pensées et dans leurs écrits la part du secret, et finalement en faisant, je crois, retour vers quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui à la poésie, sans doute, mais à la vie tout court, c'est la compassion. Je ne parle pas de compassion au sens étroit, chrétien, limité du rapport du fort au faible, mais un rapport de visage à visage, dans le retrait et la nécessité de l'autre. Donc, refus de prédation, secret, compassion, sont bien pour moi les trois lampes de ces philosophes que j'aime. Et ces trois lampes brillent. Vous parliez du nomadisme, comme celle des nomades, comme celle qu'ils déposent devant leur yourte pour célébrer la vie face à l'immense nuit.
Vous avez choisi, je crois, pour faire écho à ces paroles et à ce commentaire, quelques extraits de Lévinas tirés de Totalité et Infini.
Oui, alors, j'aimerais vous lire ceci. La situation privilégiée où le mal, toujours futur, devient présent, la limite de la conscience, s'atteint dans la souffrance dite physique. Toute l'acuité de la souffrance tient à l'impossibilité de la fuir, de se protéger en soi-même, contre soi-même. Elle tient au détachement à l'égard de toute source vive, impossibilité de reculer. L'épreuve suprême de la liberté n'est pas la mort, mais la souffrance. L'épreuve suprême de la volonté n'est pas la mort, mais la souffrance. La violence n'arrête pas le discours. Tout n'est pas inexorable. Ainsi seulement, la violence reste supportable dans la patience. Elle ne se produit que dans un monde où je peux mourir par quelqu'un et pour quelqu'un. Cela situe la mort dans un contexte nouveau et en modifie le concept, vidé du pathétique qui lui vient du fait d'être ma mort. Autrement dit, dans la patience, la volonté perce la croûte de son égoïsme et comme déplace le centre de sa gravité hors d'elle pour vouloir, comme désir et bonté, que rien ne limite.
L'épreuve suprême de la liberté n'est pas la mort, mais la souffrance. Est-ce que vous pouvez éclairer cette formule ? D'abord, pourquoi l'épreuve suprême de la liberté pourrait-elle être la mort ? Pourquoi ?
Il me semble que cette question de l'épreuve suprême doit être désamorcée pour ne pas nous apparaître comme un mur et ne pas nous décourager. Dans le fond, j'entends épreuve suprême comme à nouveau appel à discours. Et si la mort est dite dans ce texte, épreuve suprême, finalement, je vous avoue, je n'en sais trop rien, mais je le comprends de telle façon que c'est au langage que l'épreuve trouve, c'est dans le langage que l'épreuve trouve son avènement.
Oui, l'occasion de sa liberté.
L'occasion de sa liberté. Ouais. Et il me semble que dire la douleur, bien sûr, c'est toujours un peu parler de soi, mais de quel soi. Dire la douleur, ça renvoie toujours un peu à quelque chose, sinon de biographique, du moins à quelque chose de très physique, de très charnel. Mmh. Et c'est dans ce passage du corps où ce qui appartient à la chair, à la douleur, à la mort, ne peut être exprimé en soi, dans la matière, que sous forme de cris muets, de cris rentrés, qu'il y a d'abord un effort suprême à accomplir, un effort de transmutation, de transformation, comme dirait Joé Bousquet, un effort qui consiste à éteindre ce cri et ce hurlement, à le coucher en quelque sorte d'abord dans le silence et le calme, et ensuite seulement de voir comment ce silence peut être traduit.
C'est comme selon la formule de Bousquet. Mais c'est ce que vous venez de dire explique bien la formule de Lévinas que vous avez lue tout à l'heure, c'est-à-dire une parole qui soit vidée de tout pathétique. C'est vider, hein, effectivement, c'est l'ascèse, si on peut dire, qui mène à l'écriture, consisterait alors à vider du pathétique la parole, ce qui est une traversée du corps qui est en même temps, il faut se méfier des mots, mais enfin comme une sorte de purification, une sorte de détachement.
Oui, Lévinas parle d'attente.
Oui.
Et c'est dans cette attente qu'il y a cette façon si particulière, je dirais si singulière, individuelle, de se disposer au temps. Mmh. Et c'est aussi cette chance offerte à dépasser l'affrontement.
Bien. On va s'arrêter là pour une deuxième pause musicale. Vous avez choisi Philippe Glass.
Oui, hein? Oui, absolument. Alors, Philippe Glass, parce que... Pourquoi? Parce que c'est la vie.
Très bien, alors on écoute. On va venir maintenant donc au centre, si je peux dire, de notre émission, mais il n'y a pas de contradiction du tout entre tout ça. C'est au livre donc que vous publiez, Philippe Ramy, ce printemps, chez Chêne Éditeur, dans sa collection Grand Fond, qui s'intitule « Mouvement par la fin ».
Et pour les auditeurs, je précise que fin s'écrit ici F-I-N, mouvement par la fin, donc il y a déjà une sorte de paradoxe dans, un peu implicite dans ce livre, dans ce titre, qui a comme sous-titre « Un portrait de la douleur ». Je précise aussi, on en dira un mot tout à l'heure, que le livre est non pas préfacé, mais post-facé par Jacques Dupin, qui a choisi comme ça, avec l'humilité de la grandeur, si je peux dire, de dire quelque chose sur ce livre qui l'a beaucoup touché, mais de le mettre à la fin. Après, la parole, la première parole étant celle de l'écrivain. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas à dissocier, en fait, le chroniqueur de Remunette, le philosophe et l'écrivain. Tout cela fait un. Je pense qu'on l'a senti. Juste pour présenter très rapidement Philippe Ramy, je lirai par exemple la petite indication biographique qui est donnée dans le rabat du livre. Philippe Ramy, donc, né à Genève en 1965, est atteint de la maladie des os de verre, égyptologue, licencié en philosophie. Il collabore au site Remunette, créé par François Bon, mouvement par la fin, et son premier livre. On peut dire aussi que Ramy, par son père, a des origines égyptiennes. Voilà. Et c'est que peut-être qui a expliqué l'intérêt manifesté pour l'égyptologie dans une première partie de carrière universitaire. Genève, parce que finalement, Philippe Ramy est suisse sur le plan de la carte d'identité et du passeport. Voilà, qu'il est installé en France depuis quelques années, mais qu'il le fait très souvent, ainsi que sa femme, le voyage vers la Suisse, pour diverses raisons. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ces indications. Voilà, j'aurais aimé ajouter simplement que les Ramy sont aussi des voyageurs. On les a connus il y a presque un an en Floride. Ils viennent de passer quelque temps à Malte. Et voilà, donc ils tracent une route sinueuse entre l'Europe et d'autres pays.
En fauteuil roulant.
En fauteuil roulant, c'est ce que je voulais ajouter, puisque la maladie des os de verre est une menace constante sur l'équilibre du corps. Bon, je voudrais... ce livre est parfaitement adapté, si je puis dire, à la collection dans laquelle il a été accueilli, c'est-à-dire la collection Grand Fond, car ce n'est ni un récit, ni un essai, ni un poème, c'est une méditation dont je voudrais lire quelques extraits avant que Philippe Ramy lui-même nous en lise, et peut-être dirons-nous quelque chose d'un peu plus sur la nature de ce livre. Je partage tout. Murmure, tonnerre, la pluie d'aurore, l'air au bord de l'eau. Le corps malade est un puits pour les autres. Ils viennent y faire leurs vœux. Ou plutôt, comme il existe une hiérarchie des âmes damnées, ou comme les corps célestes les plus lourds attirent à eux des satellites, ma souffrance plus compacte pousse ceux que je reçois à me montrer leur peine. Tous. Infirmière, médecin, menuisier alerté pour clouer une planche sur un volet battant, simple visiteur, après avoir pris de mes nouvelles, puis m'avoir fait l'aveu d'une misère quotidienne, me confie le malheur de n'être pas aimé. Alors, Je m'enrichis de l'enfance de ceux qui pleurent. Ils sont venus avec la nuit, se sont assis. Ils ne parlent pas. Ils sourient. Leurs yeux sont des larmes. Si je mourais à l'instant, j'entrerais plus avant dans la douceur. Il pleut à peine. Une buse tourne sur le vieux mur. Enlevé dans ses cercles, je voyage, porté par les épaules comme une croix. D'en haut, tout est offert. Je vois un filet d'or autour du cimetière, l'ornière saluer le feu du ciel. La terre est sans chagrin. Un bruit. Ceux qui m'aiment quittent la chambre. Leur absence reste longtemps imprimée dans l'air. Le vent fait craquer les vitres. La porte garde le corps de ce côté quand la pensée se déchire et disparaît nulle part. Je voudrais ne pas être seul en allant vers la fin, devenir un paysage, un village au désert. Invisible de jour, quand les mirages l'entourent, dévoilé par le crépuscule aux étoiles légères, quand, vif sur le chemin du voyage, il oriente l'éveillé en son vide intérieur. Le jour vient sur la maison, et je crois que ce néant est encore l'humanité, que le monde n'est pas orphelin. Je voudrais que les auditeurs soient sensibles, entre autres choses, à l'extrême maîtrise de cette langue, à son équilibre, à son rythme, à quelque chose qui, là, est à la fois conquis et donné aux autres dans la simplicité d'une écriture, je dirais par là même, parfaitement et profondément humaine. Alors je ne sais pas si Philippe Ramy, vous voulez dire quelque chose avant de lire l'extrait. J'aimerais entendre votre voix lire un extrait de ce livre.
Vous dire que vivre, c'est écrire pour moi et c'est aussi l'apprentissage de la vulnérabilité, que la douleur porte en elle, en quelque sorte, un trésor. Je précise bien, la douleur subie de façon inévitable, et non pas la douleur que l'on cherche. Et la douleur, c'est la chance de se rompre, moins l'énigme de disparaître. Voilà.
Alors on écoute cet extrait.
Je me résous à parler, puisque cela aussi sera emporté. Quelques minutes avant mes plus longues crises, je vois distinctement, je vois, car la joie est alors mon seul besoin. Des trombes d'eau s'abattre par une ouverture du plafond et dans la mer d'orage se déplacer la masse noir d'un soleil est un angle où ton regard se déchire. Dans sa plaie, il vit. La tête te fixe, l'épaule gauche est bandée, elle saigne abondamment, le bras est tendu, un fer le traverse. La main est posée sur les organes génitaux, elle tient un drain où caillots et cristaux coulent avec l'urine. L'autre main écrit machinalement dans un cahier à couverture noire. L'abdomen est proéminent, les hanches crevées par l'escarre. Les jambes en lames sont recroquevillées à plat, comme la drogue les a fauchées. Aujourd'hui s'achève sans infléchir une crise qui prolonge sa veille. Ma chambre est au courant d'air, l'océan vient. Je suis sa lumière et son cri. Le sternum est découpé pour une intervention sur le cœur qui bat un rythme de métal, un tuyau jaune guêpe est planté dans la gorge, il crache les antibiotiques à l'intérieur d'un ventricule. Je m'autorise une injection dont le pouvoir ne désagrège pas la douleur, mais la couvre d'une peau et m'isole pour un temps dans un corps d'où je peux écrire. Génétique, mon infirmité me domine. Penser à elle mène vers sa perfection l'œuvre de la maladie. À force de souffrir, le discours s'élabore. Esprit venu sur le déplacement du ciel, n'as-tu jamais attendu l'ange du matin ? L'orage ensanglanté arrache le plafond. Mon corps est un éclat de verre. Alors que j'écoute mes os se briser, je perds la vue, la parole, les yeux tombent au fond du crâne, la langue enfle, elle sort de la bouche, un filament glacé s'enroule autour des chevilles. Un autre entaille les jambes, un autre les reins, le dos, un autre, encore un autre. Il pleut des barbelés, suspendus à des centaines de griffes. Mes mains cherchent le souvenir de leurs gestes. Je suis dans un sac. Il y a dans ce mal une intransigeance, une obligation de pauvreté qui me font l'intime d'une agression. Mais jamais je n'affronte ce que je frappe, jamais je n'affronte ce qui me frappe. Je pense un repos où la pulsion de mort et la miséricorde se mêlent. Rejoins cette plus juste personne que tu es dans la douleur. Soulage la détresse d'un amour qui ne peut te toucher sans te faire souffrir.
Nous allons écouter un dernier extrait musical et vous avez choisi...
J'ai choisi un groupe de rock de Menton qui s'intitule Hermanos. Parce que ce sont des amis.
Très bien. Alors nous écoutons Hermanos. Pour notre dernière partie de l'émission, je voudrais évoquer la lecture que Jacques Dupin a faite de ce livre, lecture tellement en sympathie qu'il a désiré y faire écrire cette postface à laquelle il a donné le titre de L'épure. Alors je vais lire tout simplement un petit passage de cette postface très brève mais très profondément juste. Note d'un journal anachronique, échardes arrachées au corps souffrant, étincelles dispersées dans l'air. Très loin de toute complaisance narcissique, ce portrait de la douleur est un constat transcrit jour après jour de ce que le corps et l'esprit endurent dans l'épreuve. La notation réaliste au plus près, au plus précis, s'ouvre sur le dehors, s'exalte de la contemplation de la mer ou de la nuit, d'un arbre, d'un nuage, de l'envol d'une buse au-dessus des murs. L'enchaînement des crises, des soins éprouvants, des injections, n'en finit pas de renaître en jetant de sourdes lueurs, en provoquant l'exorable montée de la lumière, décantation qui soudain cristallise et desserre l'oppression. Le corps, supplicié, réinvente, pour se maintenir éveillé, l'échappée de la fenêtre ouverte et l'espace réconcilié. Je voudrais juste ajouter quand même qu'il y a... comment dirais-je, un ancrage plus précis de ce livre, puisqu'il a été écrit après une lourde opération à cœur ouvert. Donc c'est peut-être ce qui explique aussi un certain nombre d'indications, enfin quasi cliniques, qu'on trouve dans ce livre et que vient d'évoquer Jacques Dupin. Juste un mot, il nous reste 2 minutes. Juste un mot, Philippe Ramy, sur votre rencontre de Jacques Dupin. Vous lui avez envoyé, je crois, le manuscrit.
Et je suis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis heureux de terminer cette émission en votre compagnie, dans l'amitié et dans l'évocation de Jacques Dupin et de cette postface. J'ai lu Heureux hasard. Cette nuit, un très beau livre de Dupin, oui. Matière d'infini, Anthony Tapies, qui est paru chez Farago. Et je souhaitais, pour conclure...
C'est très bien, ça tombe très très bien.
Je souhaitais, pour conclure, donner la parole, laisser la parole également à Dupin.
Vous pouvez redire le titre de...
Oui, bien sûr.
Parce que
Matière d'infini, oui. Anthony Tapies... avec dessins originaux d'Anthony Tapies, paru chez Farago. D'un accouplement exaspéré qui culmine au fond de la mer, je confonds l'emprise avec les rayons de ma peur. Des parcelles se détachent, s'enflamment dans l'air, retombent dans le vide qui les absout. Comme à l'écart, entre les racines des chênes, entre les orteils, de ce massif de peinture dont on ne verra jamais ni le commencement ni la fin, ni le vide majeur, ni le trait futur.
Merci pour cette lecture de Jacques Dupin. Nous arrivons maintenant au terme de l'émission. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Il nous reste quelques minutes, 2-3 minutes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, Philippe Ramy, que vous auriez aimé dire qui vous a passé par la tête?
Oui, passe maintenant quelque chose par la tête, en forme de clin d'œil.
Oui.
Je dirais que si la parole est le premier chien de l'homme, elle est aussi son plus fidèle chameau. Et elle est aussi son véhicule pour la liberté.
Ouais. Voilà. C'est... Juste. Très bien. Eh bien, sur ce beau mot, belle parole, qui oppose donc le chien au chameau, dans une espèce de suite métaphorique qui me fait penser à aux métamorphoses de Zarathoustra. Nous allons conclure et pour nous qui sommes à Menton ce matin, nous terminerons en buvant un verre.
Nous y allons de cette roue.
Voilà. Allez, au revoir aux auditeurs. Merci Philippe Ramy.
Merci à vous.
Merci Tania.
Bonsoir.
Et pour moi, je vous reverrai dans un mois avec Yves Hugues et Sophie Braganti.